avant de venir pour que vous commenciez à vous imprégner des lits.
Mais c'est bon.
Si jamais vous n'avez pas fait, vous avez encore le temps. Et pour ce matin, je vais lire donc un roi.
Bon, pour l'instant, je sais pas.
Du chapitre 16 au verset 23 et jusqu'à la fin du chapitre 17. Un roi 16 à partir.
C'est bon, c'est bon.
Non, c'est juste... La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, des noms rigolos, il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et appela la ville qu'il bâtit du nom de Samarie. Omri fit ce qui déplaisait au Seigneur. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il suivit en tout la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et le péché qu'il avait fait commettre à Israël, contrariant ainsi le Seigneur, le Dieu d'Israël, par leur futilité. Le reste de l'histoire d'Omri, ce qu'il a fait, la vaillance qu'il a montrée, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie. Achab, son fils, devint roi à sa place. Achab, fils d'Omri, devint roi sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela avait été peu de choses pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir le Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel au Baal dans la maison du Baal qu'il bâtit à Samarie. Achab fit aussi le poteau cultuel. Achab fit plus encore pour contrarier le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. En ces jours, Hiel, le Bethélite, bâtit Jéricho. Il en posa les fondations au prix d'Abiram, son premier-né, et il en installa les portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » La parole du Seigneur lui parvint. Repars d'ici vers l'est et cache-toi près de l'oued Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de l'oued. J'ai ordonné au corbeau de pourvoir à tous tes besoins là-bas. Il partit et agit selon la parole du Seigneur, qui alla s'installer près de l'oued Kirit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait à l'oued. Mais après quelques temps, l'oued fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. » L'allant chercher, il l'appela de nouveau et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant 10 jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après cela, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « pourquoi te mêles-tu de mes affaires, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour évoquer ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit de ses bras, le monta dans la chambre à l'étage où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, Seigneur, mon Dieu, causerais-tu du mal à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? Il s'étendit trois fois tout son long sur l'enfant. Invoqua le Seigneur en disant, Seigneur mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Le Seigneur entendit Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, regarde, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. Chers concitoyens, souvenez-vous de mai 2012. François Hollande est élu président de la République. De ça, je retiens deux choses. Un, son slogan, le changement, c'est maintenant. Un slogan qui marque une volonté de rompre avec la présidence précédente, une volonté de renouveau, de retrouver la croissance, etc., etc. Deux, Hollande, le président normal. Encore une fois, volonté de se démarquer de l'image du président d'avant, nerveux et frénétique. Est-ce que François Hollande a réussi son pari? Ce n'est pas la question de ce matin. Est-ce qu'on va s'intéresser à Élie, qu'on peut en fait lui aussi caractériser par ses deux traits? On va voir cette semaine que Élie est un prophète qui a voulu apporter un changement radical à son pays pour sortir non pas d'une situation de crise économique, mais d'apostasie généralisée et normalisée en Israël. Il était peut-être l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. C'était un prophète zélé qui avait un ardent désir de défendre la cause de l'Éternel. Mais c'était aussi un homme normal. Et ça, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui le dit. Dans Jacques 5, verset 17, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Je ne sais pas si ça vous a frappé quand vous l'avez lu, mais la narration de cet ensemble de récits reste un portrait d'Élie, nuancé et parfois ambigu. Mais avant de nous attaquer à Élie, comme on est de bons Gébéliciens, on va regarder dans quel contexte l'histoire d'Élie nous est racontée. Alors, un petit peu de méthode déjà. Ce qu'on appelle souvent le cycle d'Élie, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui vont du début du ministère d'Élie jusqu'à la fin, de Roi 2, ce sont des récits. Dans les fables de la fontaine, à la fin du récit, il y a une morale. Dans la Bible, il n'y a pas de morale explicite, souvent dans les récits. Le message, le sens, est très souvent implicite. Mais heureusement, il y a un narrateur qui guide le récit et nous oriente dans notre compréhension du message. Mais se mettre à l'écoute de la douce voix que susurre le narrateur, ça veut dire qu'il va falloir être attentif. Attentif au texte et à la façon dont est raconté le récit. Aux petits détails qui nous guident subtilement. Alors, contexte, maestro. Alors vous avez les plans de mes interventions dans le livret. Il y a quelques petites annexes. Par exemple l'annexe 1 à la fin, qui est un plan du livre des rois qu'un théologien a proposé, que je trouve intéressant. Alors contexte, ça veut dire le livre des rois. Il raconte ce qui s'est passé après le livre de Samuel. Samuel, ça retracé le règne de David. Et le livre des rois, il retrace en gros l'histoire qui va du règne de Salomon, le fils de David, jusqu'à l'exil de Juda. Il y a quelques petites dates. Donc, exil de Juda, c'est-à-dire l'anéantissement du royaume et la déportation massive qui s'ensuit. Le livre des rois explique pour quelles raisons Dieu a condamné son peuple à l'exil. malgré les promesses à Abraham et à David. Pour caricaturer un petit peu nos livres d'histoire, on s'intéresse aux grands personnages, leurs grandes réalisations, leurs guerres, les grandes conquêtes, etc. C'est pas ça qui intéresse l'auteur du livre des Rois. Ce qu'il fait, c'est plutôt l'histoire de la fidélité à l'Éternel et sa loi, ou pas, des rois d'Israël et de Juda. Si vous avez lu le livre des Rois, vous avez peut-être repéré le refrain qui illustre bien ce qui préoccupe l'auteur. C'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 16, par exemple. Machin régna X années à Jérusalem, puis le bien aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Ou alors Bidule régna X années sur Samarie, il fit le mal en imitant l'exemple de Jéroboam. Fidélité ou infidélité des rois. Mais finalement, plus que des rois, c'est le roi des rois qu'on voit régner tout au long de ce livre. Donc, le livre des rois commence avec le règne de Salomon, fils de David. Il était le plus sage des rois, mais pas le plus pieux des rois. Après une période de règne glorieuse, il a fini par se livrer à l'idolâtrie, à cause de ses femmes, entre autres. Toujours. Et là, c'est le drame, puisque Dieu le sanctionne en enlevant le règne complet d'Israël à ses descendants. C'est ce qui se produit avec son fils, Roboam. Dieu suscite un autre homme, Jéroboam, pour provoquer une scission dans le royaume, ce qui aboutit à deux royaumes.
Là. Encore ?
Voilà. Aussi, Juda et au nord, Israël. Donc Juda, c'est le royaume dont les fils de David, où les fils de David règnent. Et le royaume d'Israël regroupe les 10 autres tribus d'Israël au nord. Et c'est au nord, dans le royaume d'Israël, que va se dérouler le ministère d'Élie. Donc Jéroboam, premier roi d'Israël, Dieu lui promet même une dynastie stable si jamais il obéit à Dieu. Il ne va pas obéir. Il va instaurer une religion syncrétiste qui continue d'adorer Yahvé, mais de manière corrompue. Aucun roi d'Israël ne va faire le bien à Juda. Et à Juda, il y aura une alternance de roi bon et de roi mauvais. Le royaume d'Israël, donc le royaume dans lequel se déroule les ministères d'Élie et Élisée, va être d'une certaine manière avoir un rôle de témoin pour Juda. D'une part, il rappelle à Juda sa désobéissance. Juda est humilié parce que le descendant de David ne règne que sur une petite partie de la terre promise. Mais d'autre part, Israël va être une sorte de témoin, de contre-exemple pour Juda. Les rois d'Israël vont être systématiquement mauvais. En 722, Israël va être conquis et le peuple déporté à cause de sa désobéissance. D'une certaine façon, ça montre à Juda qu'est-ce qui arrive quand on désobéit à l'Éternel. On ne va pas subir le même sort, ce qui arrivera en fait en 586. Cependant, même si Juda est un royaume politiquement plus faible qu'Israël, Dieu va garantir une dynastie stable sur le royaume. En fait, à gauche, vous avez une dynastie continue jusqu'à la fin du royaume de Juda, et en fait ça va continuer à partir de David, qui ne sera jamais interrompu. Mais en Israël, il n'y aura aucune dynastie stable. Là, c'est plein de dynasties différentes qui se succèdent plus ou moins longuement. Mais dans le livre des rois, il y a quelque chose d'étonnant. C'est l'importance que prend une certaine dynastie dans le livre. Si vous regardez le plan du livre, donc annexe 1 dans vos livrets, vous voyez qu'il y a un plan un petit peu en miroir. Vous avez d'abord Salomon, la monarchie unie, ensuite il y a la sécession du royaume du Nord qui aboutit à deux royaumes. Ensuite, en C, il y a une succession de rois d'Israël et de Juda. Et au milieu, donc CB, C'est un peu la même chose à l'inverse. Et au milieu, il y a une dynastie qui dure sur beaucoup de chapitres. C'est la dynastie des Omrides, c'est-à-dire les descendants d'Omri. Pourquoi est-elle importante ? Alors, dans le livre des rois, encore une fois, il y a quelques rois qui vont servir de point de repère. David va être un point de repère pour le bien. Les rois vont suivre son exemple en bien ou en plus ou moins bien. Jéroboam, le premier roi d'Israël, va être aussi un exemple, un point de repère pour le mal. Les rois d'Israël vont faire le mal en suivant l'exemple de Jéroboam. Et Akab, fils d'Omri, va servir de référence pour le mal pire que Jéroboam. Et c'est sous le règne des Omri que va se dérouler, que vont se dérouler les ministères d'Élie et d'Élisée. Ce qui n'est pas sans rapport, parce que à une apostasie extraordinaire des rois d'Israël correspond à un ministère exceptionnel des prophètes. Alors après cette petite mise en contexte, on va s'attaquer à notre texte. Et d'abord, on va voir qu'on a des rois apostats, versets 23 à 34. Donc, à la fin du chapitre 16, en fait, pendant tout le chapitre 16, il y a des sommaires, des résumés des règnes des rois d'Israël. Donc là, on a des sommaires tout à fait classiques pour les règnes d'Omri et d'Akab. Mais avec Akab, on a du nouveau. C'est pire que tous ses prédécesseurs. Et même pire que Jéroboam. Alors sur Omri lui-même, au verset 23 à 28, on n'a pas beaucoup de détails. Alors je ne sais pas si c'est un homme qui rit, Omri, mais l'élément important qui est souligné, c'est qu'il change de capitale et fonde Samarie. Elle est mieux située, plus facilement défendable, voilà, c'est cool. Peu de détails, pourtant c'est un roi très important du point de vue politique. Omri devient roi après une période troublée. On se trouve 50 ans après la mort de Salomon. Et la sécession du royaume d'Israël a affaibli les deux royaumes. Et le pharaon Shishak en avait profité pour ravager Juda et Israël. Omri, lui, va consolider et stabiliser le pouvoir, ce qui permet le développement politique du royaume d'Israël. Il ouvre une nouvelle trajectoire que son fils Akab va continuer. Akab, versets 29 à 34. Politiquement, Akab est quelqu'un d'habile. Il fait alliance avec des villes de Phénicie en épousant Jézabel, fille du roi de Sidon. Il y a une carte juste après, normalement. Donc voilà, la Phénicie, c'est par là. Pays païen et phénicien. Et cette alliance, en fait, elle est commercialement bénéfique et elle sécurise pour les Phéniciens un marché intérieur dans les terres d'Israël. Et pour Israël, un accès au marché de la mer méditerranéenne. Par contre, ça coupe les villes araméennes, comme Damas. Ça coupe les villes araméennes comme Damas des routes commerciales passant de l'Arabie vers la mer, etc. Et cette alliance va provoquer des guerres incessantes entre Israël et Damas, chapitre 20 à 22 par exemple, de 1 roi. En même temps, Omri, Akab, mène une politique d'expansion militaire agressive. On sait par d'autres sources que la Bible qu'il a pu lever une armée de 2000 chars et 10 000 soldats. On a retrouvé des grandes écuries dans des villes qui datent de son règne. Voilà, ça c'est la minute géopolitique du Proche-Orient ancien. Mais ce qui est vraiment important, et ce qui va lancer toute l'intrigue du cycle d'Élie et d'Élisée, c'est l'apostasie d'Akab. Un peu comme Salomon, la conséquence d'épouser une femme étrangère, c'est qu'on épouse aussi son dieu, Baal. Pourquoi son idolâtrie est pire que celle des rois précédents ? C'est que jusqu'ici, le culte en Israël était déviant. Syncrétiste. Mais c'est quand même Yahvé qui était adoré dans le panthéon des dieux. Ici, probablement, ce qui se passe, c'est que Baal remplace Yahvé. Et Akab institue de manière officielle, il institutionnalise le culte de Baal, en plaçant Baal comme divinité suprême dans la hiérarchie des dieux. Il y a un pas de plus dans l'idolâtrie et l'éloignement de l'Éternel. C'est là que surgit de nulle part
Tatatin.
Élie, un prophète zélé. Tu peux la passer. Voilà, très bien. Élie surgit. Élie fait une entrée fracassante. Avec le CV d'Akab, on s'attend bien à ce que Dieu intervienne en envoyant un prophète pour lui tirer les bretelles. Alors là, il faut comprendre comment fonctionne le livre des rois. Quand le représentant de Dieu, le roi, part en vrille, Dieu envoie un autre représentant qui vient rappeler la parole de Dieu. Et vous n'avez pas dans vos livrets la liste qui va s'afficher tout de suite. C'est plein de versets où il y a des interventions de prophètes de la part de Dieu. Dans ces interventions, il y a des formules stéréotypées. En particulier, « Ainsi parle le Seigneur ». Avec cette formule, « Ainsi parle le Seigneur », on sait qu'un prophète parle au nom de Dieu. Il y a d'autres formules assez stéréotypées qui reviennent. Du style « Yahvé envoya le prophète bidule » ou « La parole de Yahvé parvint à machin »,« La parole parvint à machin par l'intermédiaire du prophète bidule ». Mais l'arrivée fracassante d'Élie est surprenante, parce que ça ne correspond pas du tout au cadre habituel de l'intervention, des interventions des prophètes. Et si vous lisez la liste, vous pourrez me la demander après, de ces versets-là, le contraste avec Élie est saisissant. Ici, Élie apparaît de sa propre initiative, et il va voir Akab pour lui annoncer la sécheresse. Aucune mention de Dieu qui envoie. Élie ne dit pas la formule stéréotypée « Ainsi parle le Seigneur ». À la place, il utilise une formule de serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, il n'y aura pas de pluie. Par la vie du Seigneur, il n'y aura pas de pluie. C'est une manière de mettre du poids, de la solennité dans ses paroles, mais c'est sa propre initiative qui dit ça. Par le narrateur, Élie n'est qualifié ni de prophète, ni d'homme de Dieu, mais simplement de là d'où il vient. Et en fait, il faudra attendre le chapitre 18, verset 36, pour être qualifié pour la première fois de prophète par le narrateur. Mais à la place, il y a une auto-attestation d'Élie. Je me tiens devant Yahvé. Dernière surprise, et il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Élie conditionne la venue de la pluie à sa parole. Et ça, c'est très bizarre. Dans la liste que vous n'avez pas lue, on n'a pas le temps de lire, c'est toujours la parole de Yahvé qui est mise en avant. C'est jamais la parole du prophète. Et ça produit une sorte de tension, une ambiguïté dans les paroles d'Élie. La tension, elle est même accentuée par le verset suivant. Non, c'était moi.
C'était ça.
Ouais. Le verset 1 finit par « ma parole » et le verset 2 commence par « et la parole de Yahvé lui parvint ». Il y a comme un décalage entre la parole d'Élie et la parole de Yahvé. Alors qu'on s'attendrait à voir en premier la parole de Yahvé. Tout ça est très surprenant. En un verset, l'auteur renverse toutes les attentes du lecteur. L'effet est théâtral, surprenant, spectaculaire, mais pas seulement. C'est un procédé narratif qui, d'une certaine manière, nous fait prendre de la distance par rapport à Élie. Ça nous pose des questions, mais qui c'est ce Élie? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas présenté dans le cadre classique d'un prophète? Est-ce que c'est Élie qui contrôle la situation, pas de pluie à ma parole? Ou est-ce que c'est Dieu qui contrôle la situation? Est-ce que Élie est vraiment un prophète fiable? Est-ce que cette auto-attestation est vraie? Est-ce que Élie se met en avant et concurrence un petit peu Dieu? J'insiste sur ce verset parce qu'il est fondamental pour comprendre ce qu'on va voir dans la suite. C'est un verset programmatique de toute la suite. D'une part, on voit Élie, l'ardent défenseur de Yahvé. Dans ce verset, il y a tout le message que veut porter Élie. L'Éternel est vivant. Et ce qui est marrant, c'est que Élie porte le nom de son message. Parce que Élie, ça veut dire Yahvé. Et mon Dieu. Il incarne presque son message. Et on va voir dans la suite qu'il engage tout ce qu'il est dans la mission qu'il s'est donnée. Aussi implicitement, sans citer son nom, il y a une polémique contre Baal. Baal était le dieu de l'orage qui envoie la pluie pour les récoltes. Une petite photo de lui, il est très mignon.
C'est lui ?
Voilà, c'est lui. en provoquant la sécheresse, Élie cherche à montrer que c'est Yahvé qui est le seul dieu vivant et pas Baal. Mais aussi cette ambiguïté chez Élie. Est-ce que c'est simplement un prophète extraordinaire ou est-ce que Élie se met en scène tel un véritable showman? Le verset 1 pose cette question et c'est suivant l'itinéraire d'Élie au cours des chapitres qui suivent qu'on va un petit peu répondre à cette question. Dans la suite du passage, Dieu reprend la main. On va voir que c'est bien lui qui est au contrôle de la situation. Et en fait, Élie va faire face aux conséquences de ce qu'il a provoqué, c'est-à-dire la sécheresse. Et on voit progressivement la sécheresse s'aggraver au fur et à mesure du récit. Donc c'est ça l'ironie, c'est que Élie lui-même va souffrir des conséquences de la sécheresse. Et on va voir la sévérité de la sécheresse à travers les yeux d'Élie dans les voyages qu'il va faire. Ce n'est que maintenant que la parole du Seigneur parvient à Élie. Il prend les devants et envoie Élie dans un mouet, vers un ruisseau, pour se cacher. Dieu contrôle la situation, il donne des ordres qui sont obéis à la fois par Élie et les corbeaux. On voit que Dieu prend soin de son prophète en subvenant à ses besoins d'eau par le torrent. En même temps, Élie fait face à la sécheresse. Et en fait, on insiste bien sur le torrent. Ça ne voit pas très bien, mais le mot « web » ou « torrent », il est répété systématiquement au cours de ce passage. Donc ça met l'accent sur le manque qui se passe à la fin. Où elle fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Et ça, c'est un renvoi direct à ce que Élie dit au verset 1. Il n'y aura pas de pluie dans le pays. Ensuite, verset 8, changement de décor. Élie est envoyé à Sarepta. Voilà. Sarepta, en fait, c'est juste en dessous de Sidon. Sidon, la ville d'où vient Jézabel. Autrement dit, en plein dans le territoire de Baal. Là où Baal était adoré pour la fertilité des récoltes. Mais c'est Dieu et pas Baal qui va subvenir aux besoins d'Élie et d'une pauvre veuve. Donc là où Dieu a ordonné à une veuve de nourrir Élie, c'est la même expression que celle au verset 4 avec les corbeaux. J'ai ordonné à des corbeaux, j'ordonne à une veuve. Sauf que les choses ne se passent pas aussi facilement qu'on s'y attendait. Quand Élie demande à la veuve de l'eau et de la nourriture, elle donne une grosse baffe dans sa face. Verset 8. Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit, etc. La veuve avait prévu autre chose, se nourrir, elle et son fils, avec ce qui reste, et mourir. C'est très ironique dans la formulation. Ton Dieu est vivant, par la vie de Yahvé, je m'apprête à mourir. C'est la même formule de serment qui est lié au verset 1.
Ouais.
Et ça, c'est encore une manière de renvoyer Élie à ses propres paroles. Alors finalement, la veuve accède à la demande d'Élie, et bim, miracle. Et à la fin de cet épisode, verset 16, on a une phrase très importante. Le pot de farine ne s'épuisa pas, la couche d'eau, etc. Selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Au verset 1, on se questionnait sur Élie. Et ici, on a le genre d'attestation du narrateur qui accompagne un prophète. Verset 1, Élie agit de sa propre initiative, mais à partir du verset 2, il obéit à Dieu et fait ce qu'il lui dit. À partir du verset 17, c'est l'étape au-dessus. C'est Élie face à la mort. Il y a une gradation des situations auxquelles Élie fait face. La sécheresse, la famine et maintenant la mort. On a une description très dramatique de la mort de l'enfant qui donne l'impression d'une maladie soudaine et violente. On n'a pas de mal à imaginer la stupeur de la mère. Dieu vient le sauver de la famine et maintenant son fils est emporté par une maladie. Élie aussi exprime son embarras, verset 19. Seigneur mon Dieu, causerais-tu du mal à cette veuve dont je suis l'hôte, faisant mourir son fils? Ensuite, Élie fait un geste trois fois et il appelle à l'aide Dieu. Alors le geste en lui-même, c'est pas trop ce que ça veut dire, ça pourrait être une sorte de bouche à bouche. En tout cas, ça symbolise probablement ce qu'il demande au verset suivant. Il demande à ce que Dieu le fasse vivre. Et c'est surtout ce que dit Élie qui est important et pas le geste, Parce que c'est à ça que Dieu réagit. Il l'écoute, verset 22. Alors, il y a quelques éléments intéressants ici pour Élie. Dieu est à l'origine de la mort de l'enfant. Verset 19. Pourquoi faire souffrir la veuve en faisant mourir son fils? Mais c'est aussi à lui qui demande la vie pour le fils. Pour Élie, Dieu est souverain sur la vie et la mort. La mort n'est pas une entité concurrente de Dieu contre laquelle Dieu fait ce qu'il peut. Et rappelez-vous la formule de serment « Yahvé est vivant », c'est parce qu'il est vivant qu'Élie peut demander la vie. Donc c'est toujours sympa de se rappeler ça, quand tout va mal, que même les pires situations nous arrivent, même la mort n'échappe pas à Dieu. On peut totalement lui faire confiance. Là encore, il y a une polémique contre Baal. Dans le cycle de Baal, Dieu combat contre le dieu de la mort, mais il n'est pas victorieux. Et pendant cette défaite, il y a la sécheresse qui vient. Mais ici, la sécheresse est un jugement de Dieu, qui n'échappe pas au contrôle de Dieu. Et tout comme ni la mort ni la vie n'échappent au contrôle de Dieu. Et ce que la veuve finit par reconnaître au verset 24, confrontée au fait d'un Dieu qui donne la vie, la veuve s'exclame « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. » Et là, on voit la finalité de toutes ces péripéties. La finalité, c'est que la veuve reconnaisse que Yahvé est Dieu et qu'Élie est son prophète. C'est pas gagné d'avance, verset 8. Enfin, tout avant, elle était assez agressive, négative avec Élie sur le ton du reproche. C'est qu'à la fin qu'elle reconnaît en Élie un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire que les paroles de Yahvé sont dans sa bouche. C'est une belle formule pour expliquer ce qu'est un prophète. C'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. C'est pas quelqu'un qui parle de sa propre autorité, de sa propre parole, mais qui transmet la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui parle pour Dieu, c'est un porte-parole de Dieu. Et on a vu avec ces deux épisodes avec la veuve comment Élie se conforme au rôle du prophète. Et vous voyez, cette formule de la veuve, c'est un petit peu différente de ce qu'Élie a dit au verset 1. Il disait, il n'y aura pas de pluie à ma parole. Maintenant, la veuve dit, il n'y aura pas de... La veuve dit, les paroles de Dieu dans ta bouche, ce n'est pas la parole d'Élie, c'est la parole de Dieu dans ta bouche qui est la vérité. Donc ça soulage et ça corrige un petit peu la tension qu'on avait vue au début. Alors maintenant, prenons un peu de recul sur ce chapitre. Non, pas moi. Élie arrive de nulle part. Il lance une virulente polémique contre Baal. La façon de présenter Élie au premier verset est atypique. Il surgit avec une auto-attestation à la fois de la mission qu'il s'est donnée et à la fois de son statut de serviteur de Dieu. Cette présentation répond à une stratégie narrative qui nous fait nous interroger sur ce personnage. C'est progressivement, en suivant son itinéraire, qu'Élie se conforme un petit peu plus au paradigme du prophète qui est envoyé et qui obéit à Dieu. La conclusion du passage, c'est que la parole du Seigneur dans sa bouche est vraie. On voit aussi que Dieu démontre, en utilisant Élie, qu'il est le vrai Dieu vivant, contrairement à Baal. Il nourrit et il donne même la vie. Mais c'est pas tout. Le fait d'envoyer Élie vers une veuve à Sarepta, sur le territoire de Baal, plutôt qu'en Israël, le royaume de Dieu, c'est une critique d'Israël. La pauvre veuve, de prime abord, plutôt hostile à Élie, finit par reconnaître en lui un homme de Dieu. Et donc, implicitement, que Yahvé est le Dieu vivant. Cette même veuve accueille Élie, là où il est rejeté dans son propre pays. Dieu lui demande de se cacher, et c'est pas pour rien. C'est un peu ce que dit Jésus dans Luc 4, où il fait le parallèle entre sa situation et celle d'Élie. Le fait que Dieu envoie Élie vers une veuve étrangère, c'est une condamnation en soi d'Israël. Je cite Jésus, il y avait des veuves en Israël, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Cette veuve, elle est une sorte d'anti-Akab, de contraire d'Akab. Le roi était censé adorer Yahvé de prime abord, mais il s'est détourné pour se soumettre à Baal. Et ça montre à quel point le cœur des Israélites, et en particulier celui d'Akab, est endurci. Si une pauvre veuve de prime abord, Baalite, fait mieux qu'eux. En fait, ce n'est pas la sécheresse elle seule qui a un jugement sur Israël, mais c'est la sécheresse avec l'envoi d'Élie hors d'Israël. Le jugement, c'est que, d'une certaine façon, la présence de Dieu quitte ceux qui sont jugés, livrés à eux-mêmes, sans Dieu, et livrés à leurs propres péchés. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup développer les applications, je ferai mieux les prochaines fois, mais je veux juste souligner les deux thèmes récurrents qui vont parcourir l'ensemble du cycle d'Élie, la grâce et le jugement. Il y a ces deux éléments présents dans le récit avec la veuve. Dieu prend soin d'une pauvre veuve en envoyant Élie. Élie ne serait certainement pas allé voir de lui-même cette veuve païenne. Mais en même temps, donc ça c'est la grâce, en même temps c'est un signe de jugement pour Israël. Dieu laisse Israël de côté pour une païenne dont la foi est même plus admirable que celle du roi. Aujourd'hui, ces deux dimensions sont toujours présentes. Le salut est accessible à tous par la foi. Et tous, ça veut dire que ce n'est pas à nous de choisir les gens qui nous plaisent pour être envoyés vers eux. L'évangile doit être annoncé à tous, les athées, les musulmans, les franchouillards, les étrangers, les punks et les femmes de Justin Bieber, les clochards, les traders, etc. Dieu continue de juger. Alors, on attend un jugement final, définitif, quand Jésus reviendra, mais Dieu continue quand même d'exercer son rôle de juge. Et parfois, je me demande si la France et l'Europe ne sont pas un petit peu comme l'Israël du Nord du christianisme. Les valeurs de nos sociétés sont celles du christianisme, mais de manière pervertie et tordue. Alors, est-ce que Dieu ne juge pas la France et le reste de l'Europe par l'athéisme? Ou est-ce qu'il ne juge pas la France en la livrant à ses passions déréglées? Est-ce qu'il faut s'attendre à un réveil en France? Pas sûr. On peut toujours espérer, mais pas sûr.
On peut toujours prier.
Mais en tout cas, notre petit nombre de chrétiens fidèles n'est pas une raison de désespérer. Parce que notre Dieu est fidèle et il règne, et on peut s'accrocher à lui.
Amen. Amen.
Il tient son temps en plus.